Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce jeudi 17 juin 2021. J'ai le grand plaisir de vous présenter tout de suite le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. Merci de votre écoute. En participant massivement aux élections présidentielles du 18 juin, les Iraniens décevront encore une fois les ennemis, a souligné le guide suprême de la révolution islamique. Un convoi américain a été attaqué à Sarlawiya, une ville de la province d'Al-Anbar en Irak, et la construction de la route reliant la RDC à l'Ouganda a été lancée. C'était les principaux titres, en voici le journal. À l'approche de l'élection présidentielle du 18 juin, le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Ali Khamenei, s'adresse à la nation dans un discours télévisé où il a qualifié la prochaine élection de « décisif ». Dans son discours en direct diffusé ce mercredi 16 juin à la télévision d'État et sur les réseaux sociaux, le guide suprême de la révolution islamique a insisté à la fois sur les aspects républicains et islamiques de l'État en Iran. L'Ayatollah Khamenei a déclaré que les médias américains et anglais ainsi que leurs mercenaires avaient tenté de creuser un fossé entre le peuple iranien et l'État en essayant de décourager les gens de participer à l'élection présidentielle parce que rester à l'écart des élections, c'est rester à l'écart de l'État. Mais la majeure partie du peuple a montré que malgré tout ce que les médias étrangers disent, il fera le contraire, a déclaré le guide suprême de la révolution islamique. Les élections doivent être considérées comme allant au-delà des points de vue des factions et des courants politiques, a dit le guide suprême de la révolution islamique, qualifiant la participation aux élections d'acte de vertu. L'Ayatollah Khamenei a déclaré qu'un taux de participation élevé aux élections signifie que l'État bénéficie d'un soutien populaire profond, ce qui aura un impact exceptionnel sur la puissance de l'Iran sur la scène internationale. Il a déclaré que les ennemis de l'Iran cherchaient à décourager les électeurs parce qu'ils savaient que si l'État n'avait pas le soutien du peuple, il pourrait avoir l'espoir de déstabiliser le pays. Le leader de la révolution islamique a déclaré qu'une faible participation aux élections entraînerait une pression accrue sur l'Iran de la part des ennemis du pays. Il a déclaré que les élections organisées en Iran ont toujours été tenues dans les meilleures conditions, précisant que l'élection des précédents présidents, au point de vue politique parfois divergent, en est la preuve. Le leader de la révolution islamique a ensuite rejeté l'idée que l'élection du 18 juin n'est pas compétitive et a cité comme prévu les affrontements et la divergence d'idées qui ont été affichés lors des trois récents débats télévisés. Le guide suprême de la révolution islamique a déclaré que certains Iraniens des classes défavorisées hésitent peut-être à participer aux élections parce qu'ils pensent que leurs problèmes économiques n'ont pas été résolus par les gouvernements précédents. Il a reconnu que leurs préoccupations étaient vraies, mais a déclaré que leur décision de ne pas voter ne l'est pas. Ayatollah Khamenei a exhorté les jeunes Iraniens, toujours au premier rang et toujours en train d'encourager les autres à aller vers l'avant, à promouvoir également la participation aux élections du 18 juin. Le leader de la révolution islamique a ensuite demandé aux autorités de s'assurer tout d'abord que la santé des électeurs ne soit pas compromise en raison de la pandémie de COVID-19, que les bulletins de vote arrivent à temps et ne manquent dans aucun bureau de vote et que le scrutin puisse être correctement organisé pour les expatriés iraniens dans les pays étrangers. En Irak, un convoi américain a été attaqué à Sarlawiya, une ville de la province d'Al-Anbar. Ce mercredi 16 juin, un convoi logistique de l'armée américaine a été visé par une bombe de type EFP qui avait été déposée au bord d'une route à Sarlawiya. Deux véhicules militaires ont été endommagés. À noter que le convoi se dirigeait vers la base militaire d'Ain al-Assad. La veille mardi, un autre convoi américain a été pris pour cible à l'intérieur du secteur militaire de l'aéroport international de Bagdad où sont déployés des groupes de GIs. Le même jour, un autre convoi logistique américain a été attaqué à Latifia, situé au sud de Bagdad. Il y a quelques jours, quatre convois américains ont été frappés à Illa, à Nasiriyah, à Samava et à Divaniya. L'armée syrienne a détruit un poste militaire de la Turquie dans la partie sud du gouvernorat d'Idlib. Plusieurs obus sont tombés à proximité du poste de l'armée turque situé dans la ville de Sarja sur le mont Al-Zawiya. L'attaque est une réponse au soutien militaire de la Turquie aux terroristes opérant à Idlib. Deux personnes ont été tuées et quatre autres blessées le mardi 15 juin dans une explosion ayant secoué Afrin dans le nord d'Alep. Un véhicule piégé s'est fait exploser près du carrefour de Kafr Jana, en nord-est du centre-ville d'Afrin, occupé par la Turquie. Le conducteur du véhicule piégé, qui n'a pas encore été identifié, figurait parmi les victimes. Aucun groupe n'a revendiqué jusqu'à présent l'attentat à la bombe, qui était le plus récent d'une série d'attaques contre les forces turques et les civils à Afrin. La semaine dernière, une attaque à la roquette a fait 22 morts et plus de 20 blessés à Afrin. Les unités de protection du peuple YPG et le Parti des travailleurs du Kurdistan PKK sont généralement pointés du doigt pour ces attaques. L'armée turque et les terroristes qui lui sont affiliés ont occupé Afrin en 2018. Depuis lors, les forces turques mènent une insurrection contre la Turquie et ses pions. La situation dans la zone à majorité kurde reste instable, tout comme les autres zones occupées par les Turcs dans le nord et le nord-est de la Syrie. Le président de la République démocratique du Congo, RDC, Félix Tshisekedi, et son homologue ougandais, Yoweri Museveni, ont lancé mercredi 16 juin les travaux de construction de la route Beni-Kassindi, Beni-Butembo et Bunagana-Rutshuru Goma. Dans l'est du pays. La cérémonie de lancement de la route s'est effectuée dans la ville frontalière de Kassindi, en RDC, et Mpondeve, du côté de l'Ouganda, où les deux chefs d'État ont procédé à l'inauguration de la stèle symbolisant le lancement des travaux. Prenant la parole devant les habitants de Kassindi, M. Tshisekedi a fait savoir que ce projet est l'œuvre de son homologue Yoweri Museveni et une vision à laquelle il souscrit totalement. Pour le chef de l'État congolais, la construction de cette route va accroître les activités économiques, mais aussi permettra de lutter contre l'insécurité dans la région de Beni. M. Tshisekedi estime qu'au regard de l'importance de ce projet, il sera nécessaire d'en créer des semblables susceptibles de favoriser les échanges économiques et fraternels entre les deux peuples. Le Pentagone envisage une force opérationnelle navale permanente pour contrer la Chine dans le Pacifique. Le Pentagone envisage de créer une force opérationnelle navale permanente dans la région du Pacifique pour contrer la puissance militaire croissante de la Chine, selon deux personnes familières avec les discussions internes. Le plan impliquerait également la création d'une opération militaire déjà déterminée pour le Pacifique qui permettrait au secrétaire à la Défense d'allouer des dollars et des ressources supplémentaires aux problèmes chinois, ont déclaré les personnes qui ont requis l'anonymat pour discuter des plans prédécisionnels. Les deux initiatives qui ne sont pas encore finalisées renforceraient le discours dur du président américain Joe Biden sur la Chine et enverraient un signal indiquant que la nouvelle administration américaine est sérieuse dans sa volonté de réprimer la puissance militaire de Pékin. Nous examinons un certain nombre de propositions dans l'Indo-Pacifique et au sein du Pentagone pour mieux synchroniser et coordonner nos activités, a déclaré la personne s'exprimant sous le couvert de l'anonymat pour discuter des plans prédécisionnels. Cependant, comme l'a dit le secrétaire, il est maintenant temps de se mettre au travail. Il reste encore de nombreux détails et spécificités à finaliser. Ces deux mesures mettent en évidence la décision du Pentagone de déplacer ses ressources du Moyen-Orient vers le Pacifique, a déclaré un ancien responsable du Pentagone sous Trump. La force opérationnelle navale serait créée sur l'idée de la construction d'une base de l'OTAN en Europe avant et pendant la guerre froide. Voilà, si ça achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. redoutable arme navale iranienne en tuasse. Comment l'Iran se servira-t-il d'un oléoduc pour étendre son champ d'action aux Caraïbes? Depuis que la 77e flotte iranienne est arrivée en Atlantique, les États-Unis s'intéressent de plus près à la stratégie de dissuasion navale iranienne dans le golfe Persique. Certes, pour avoir frôlé à plus d'une reprise ces derniers mois la catastrophe, à savoir le clash avec la marine du CGRI, corps des gardiens de la révolution islamique, ils ont appris à se comporter avec du professionnalisme et à esquiver tout incident. Mais désormais, les choses pourraient se dérouler différemment. Un corridor logistique Iran-Caraïbe est sur le point de naître, permettant aux pays alliés de l'Iran, dans l'hémisphère occidental, de se défendre contre le maximalisme US. Le Venezuela et Cuba sont déjà partants, mais à cette nouvelle liberté d'action stratégique que l'Iran est sur le point de s'offrir, répond à un niveau plus avancé de sécurité au domicile. Et si l'Iran faisait en sorte que ses besoins de transit énergétique via le golfe Persique se réduisent au maximum, et ce pour avoir des coudées totalement franches en Atlantique? La réponse se trouve dans l'oléoduc Gorée-Jask. L'oléoduc Gorée-Jask a une situation géographique unique grâce auquel les cargaisons de pétrole iranien ne seront plus obligées de traverser le détroit d'Hormuz. Cela augmentera considérablement le contrôle de l'Iran sur ce passage stratégique et changera la marge de manœuvre de l'Iran dans ce détroit, aussi bien sur le plan stratégique que militaire, car de nombreux acteurs politiques et économiques de la région et du monde sont d'avis qu'en raison de la dépendance totale des exportations de pétrole de l'Iran du détroit d'Hormuz, par leur présence dans cette zone, ils peuvent arrêter les exportations de pétrole de l'Iran et y crée des tensions. Dans un article intitulé « Gorée-Jask va étrangler les pays arabes du golfe Persique » paru dans le journal Ray Al-Yaoum, il est dit « Le 19 mai 2021, l'Iran a annoncé qu'il avait commencé à pomper du pétrole des champs de Gorée dans l'ouest du pays vers le port de Jask, surplombant la mer d'Oman via un oléoduc de 1000 km appelé l'oléoduc Gorée-Jask. » Le projet est considéré comme l'un des plus grands projets stratégiques iraniens, avec un coût de près de 2 milliards de dollars. Abdo Al-Baesh, l'auteur de l'article, souligne que le projet confère à l'Iran une position particulière en dehors du golfe Persique. Pour la première fois, le pétrole est exporté de la mer d'Oman dans le but de réduire la dépendance vis-à-vis du détroit d'Hormuz et de faciliter l'accès aux clients étrangers. Le projet offre des opportunités uniques pour renforcer la puissance économique, politique et stratégique de l'Iran dans la région, développer le commerce, réduire la dépendance et renforcer le contrôle sur le détroit d'Hormuz, a-t-il indiqué. L'oléoduc Gorée-Jask se caractérise par une situation géographique unique qui facilite le transfert des cargaisons de pétrole iranien provenant du détroit d'Hormuz, ce qui augmentera considérablement le contrôle de l'Iran sur ce passage stratégique. Cela changera la capacité de l'Iran à manœuvrer dans le détroit d'Hormuz sous divers aspects stratégiques et militaires, car de nombreux acteurs politiques et économiques de la région et du monde pensaient jusqu'à présent que les exportations de pétrole iranien, étant totalement dépendantes du détroit d'Hormuz, peuvent par leur présence dans cette région perturber les exportations pétrolières du pays, en plus d'y créer des tensions, lit-on dans Ray Al-Yaoum. L'une des dimensions commerciales les plus importantes de ce projet est l'accès plus rapide aux eaux et aux océans internationaux libres, ce qui est une option plus attrayante pour les clients étrangers d'une part et pour les entreprises travaillant dans le domaine du commerce, du fret et du transport de marchandises de l'autre. En fait, il existe la possibilité d'obtenir des résultats profitables pour les deux parties dans ce domaine, ce qui d'une part facilite l'accès de l'Iran aux immenses marchés de l'Inde et de la Chine, et d'autre part, réduit le temps de la réalisation du processus de transport et les coûts commerciaux pour les clients étrangers, a précisé M. Abdo Al-Baesh. les tensions s'intensifient dans la région entre l'Iran et les États-Unis à un moment où se dessine l'importance réelle du détroit d'Hormuz, la voie navigable stratégique. Ces événements s'inscrivent dans le cadre des menaces iraniennes anciennes et successives de fermer le détroit d'Hormuz. Avec les sanctions américaines contre l'Iran à la suite du retrait unilatéral des États-Unis du plan global d'action conjoint en mai 2018, Téhéran s'est appuyé sur des mesures éprouvées de violation des sanctions pour continuer à exporter des quantités croissantes de pétrole brut. De plus, l'Iran a estimé que les tensions dans la région pourraient conduire à une guerre et que le détroit d'Hormuz pourrait être fermé. C'est pourquoi il a décidé d'établir l'oléoduc Gorejask pour surmonter ce problème, conclut le journal Rayal Yaoum.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. L'Iran est devenu une puissance navale incontestable, tant au niveau régional et à l'échelle internationale. Vous le savez, l'Iran est une puissance incontournable dans la région du Golfe Persique. L'Iran qui joue en fait un rôle primordial pour assurer la sécurité de cet endroit stratégique et névralgique du monde, qui est le Golfe Persique, qui est également le détroit d'Hormuz. L'Iran est devenu également, je viens de vous le dire tout à l'heure, une puissance navale internationale parce que l'Iran est désormais présent dans les eaux internationales et dans l'océan, si vous voulez, Atlantique, Pacifique, puissance navale iranienne composée du destroyer Samand et de la base flottante Makran se trouve actuellement dans l'océan Atlantique, aux portes des États-Unis. Et la présence, si vous voulez, de ces bâtiments de naval, de guerre iranien dans l'océan Atlantique intervient à un moment où la marine iranienne a reçu, si vous voulez, un autre destroyer Dena et également un chasseur de mines Shahin. S'agissant de la présence, si vous voulez, d'Iran dans les eaux internationales, il y a eu surtout cette déclaration du commandant en chef de l'armée iranienne, le général de division Abdurrahim Mousavi, qui a souligné ce mardi, en marge de la cérémonie de l'adhésion de ces deux navires à la marine, que la présence des unités de la force navale iranienne dans les eaux de l'hémisphère occidental, soit 14 000 kilomètres loin des eaux territoriales iraniennes et sans escale, marque un tournant dans l'histoire navale iranienne. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission M. Xavier de Dupré, analyste politique, économiste et spécialiste des questions internationales. M. Dupré, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie.
Je vous en prie. J'ai également avec moi en ligne pour cette émission depuis Rabat, capitale du Maroc, un autre analyste politique et spécialiste des questions internationales. Il s'agit de M. Mikhail Egorov. M. Egorov, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Notre contact n'est pas rétabli, semble-t-il, avec Rabat et avec M. Egorov. On va, en attendant, entamer notre débat avec M. Dupré. M. Dupré, je viens de lancer le sujet de cette présence navale iranienne dans la région du Golfe Persique et également désormais dans l'océan Atlantique. Et le fait que l'Iran est devenu en fait une puissance navale tant au niveau régional qu'international. Votre analyse sur ce sujet, s'il vous plaît, M. Dupré.
Oui, c'est incontestable. Hein. Donc, dans toutes les analyses, qu'elles soient d'ailleurs favorables ou non à la République islamique d'Iran, pointent les progrès de l'arsenal naval iranien, progrès qui sont impressionnants et qui, aujourd'hui, ont pleinement consacré l'Iran comme une grande puissance régionale au niveau du Golfe Persique. Et donc, aujourd'hui, donc les médias américains notamment pointent ce facteur comme étant de nature à stabiliser et à accroître d'ailleurs également la présence iranienne au niveau de toute la sous-région. De surcroît, je crois qu'il faut être très clair là-dessus, si aujourd'hui cette présence navale iranienne est à signaler dans l'Atlantique, c'est aussi en raison de la politique d'amitié entre les peuples qui est favorisée par le gouvernement iranien et qui conduit à une coopération militaire navale intensifiée entre la République bolivarienne du Venezuela d'une part et la République islamique d'Iran d'autre part. Donc quelque part ce savoir-faire est reconnu et il nourrit des possibilités de résistance aux pressions impérialistes de Washington qui sont bien connues et bien documentées puisqu'elles remontent au premier quart du 19e siècle en Amérique latine. Ce qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui, autant le dire d'emblée, les États-Unis semblent se caractériser, le gouvernement des États-Unis se caractérise par une série de messages plus ou moins farfelus au sujet de cette présence iranienne. Puisque, bon, globalement, il est essentiellement question, dans le chef de la République bolivarienne du Venezuela, d'acquérir l'élément technique qui fonde aujourd'hui la suprématie de l'Iran dans le Golfe Persique, c'est-à-dire des vedettes ultra rapides. Et les États-Unis sont en train de fantasmer une situation dans laquelle, à la limite, il y aurait une nucléarisation du Venezuela face aux États-Unis. C'est dire à quel point les États-Unis sont aux abois devant la puissance navale iranienne et les possibilités que cette dernière offre à des gouvernements en résistance contre l'impérialisme états-unien, à savoir notamment le Caracas, le Venezuela.
Merci beaucoup, Monsieur Dupré. Notre contact avec Rabat, fort heureusement, a été rétabli. Monsieur Egorov, bonjour. Est-ce que vous m'entendez?
Bonjour, je vous entends très bien.
Monsieur Egorov, est-ce que vous avez entendu la question que je vous ai posée tout à l'heure?
Malheureusement, non.
Oh bien. Je vous ai posé en fait de cette question de comment on peut interpréter, si vous voulez, de cette présence navale iranienne dans l'océan Atlantique, d'autant plus que l'Iran a eu déjà, si vous voulez, une présence importante tout d'abord dans la région du Golfe Persique et également dans d'autres eaux internationales, mais l'Iran désormais est présent sur le plan militaire et sur le plan naval dans l'océan Atlantique également. Comment peut-on l'interpréter, s'il vous plaît?
Vous savez, je pense qu'il est certain que la République islamique d'Iran est aujourd'hui une grande puissance navale, mais plus généralement parlant, comme je l'ai dit plusieurs fois et je le répéterai, l'Iran aujourd'hui est tout simplement une grande puissance, je dirais même internationale. Je crois que l'Iran a, enfin pas que je crois, j'en suis convaincu, l'Iran n'a probablement jamais été aussi influent dans son histoire contemporaine du moins, aussi bien dans le cadre régional qu'international. Dans le cadre régional, je pense que les acquis de l'Iran ne sont plus à présenter. On voit parfaitement bien l'influence que possède l'Iran sur l'échiquier régional, que ce soit en Syrie, que ce soit au Yémen, que ce soit en Irak, en Liban, à d'autres endroits de cette région stratégique pour les affaires internationales. Mais aujourd'hui, effectivement, l'influence iranienne s'étend au-delà de la région. Et on le voit notamment en Amérique latine, dans le cadre de l'interaction avec le gouvernement vénézuélien, avec la République bolivarienne du Venezuela, avec d'autres nations latino-américaines, comme l'a bien dit M. Dupré juste avant moi, j'ai entendu toutes les nations résistantes d'Amérique latine qui sont partisanes, elles aussi, de la, du concept multipolaire mondial qui est devenu une réalité. Et aujourd'hui, cette interaction ne fait que confirmer cette montée en puissance sans précédent de l'Iran dans les affaires aussi bien régionales qu'internationales. Et je pense que le déploiement de l'Iran dans l'océan Atlantique, y compris dans le cadre de cette interaction avec le Venezuela et d'autres nations latino-américaines qui résistent, je pense que cela ne fait que le confirmer amplement.
Monsieur Egorov, pour compléter en fait ce que vous venez de dire, autrement dit, l'Iran est en train d'approfondir sa profondeur stratégique, n'est-ce pas?
Absolument. Aujourd'hui, il est clair et évident que l'Iran ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, malgré toutes les attaques et toutes les agressions qu'ils ont visées. Et ce, sur différents niveaux, dans différents secteurs, que ce soit sur le plan politico-diplomatique, sécuritaire, économique, avec les sanctions qui persistent de la part des États-Unis et des pays qui font partie de ce bloc révisionniste et nostalgique de l'unipolarité. On avait bien vu ce que le triumvirat, d'ailleurs, Washington, Tel Aviv et Riyad comptaient faire vis-à-vis de l'Iran, à savoir en parler d'isoler l'Iran, d'asphyxier son économie. Eh bien, ils n'ont fait rien. Oui, l'Iran a bien sûr dû faire face à des difficultés, il a dû faire des sacrifices, mais il a tenu, il a résisté très efficacement, et cela se confirme avec cette influence qui ne cesse de grandir. Et la preuve aussi, c'est que même un régime comme celui des Saouds à Riyad, aujourd'hui, est en train déjà de mener des négociations en Syrie pour en vue de normaliser les relations, sachant que la République arabe syrienne est un allié aussi bien de la Russie que de l'Iran. On voit bien aussi que même dans le cadre des relations bilatérales entre l'Arabie saoudite et l'Iran, aujourd'hui, il y a des gestes de la part des représentants saoudiens qui peuvent laisser entrevoir une sorte de, si ce n'est pas de normalisation, mais d'une amélioration des relations. Donc ça prouve qu'ils sont en position de faiblesse et que l'Iran, malgré toutes les attaques qu'il a dû subir au cours de ces dernières années, n'a pas subi, mais a monté en puissance et a effectivement acquis cette puissance stratégique sur la scène aussi bien régionale qu'internationale, qui, je pense, continuera d'augmenter encore plus.
Monsieur Dupré, venant en fait de le souligner tout à l'heure, qu'il s'agit là en fait d'une logique qui consiste à renforcer l'amitié entre peuples. Il s'agit également d'une logique qui consiste à, si vous voulez, renforcer cette solidarité, cette cohésion face à l'hégémonie américaine, face, si vous voulez, aux pressions américaines, en l'occurrence, par exemple, en ce qui concerne l'Iran et le Venezuela. Monsieur Dupré, peut-on dire que les États-Unis sont inquiets également de voir la coopération Iran-Venezuela devenir, si vous voulez, un modèle à suivre à l'échelle latino-américaine?
Absolument. Il suffit de se rappeler l'épisode de mai 2020 durant lequel la coopération entre l'Iran et la République bolivarienne du Venezuela s'était portée sur le domaine pétrolier. À l'époque, les États-Unis ont poussé des cris d'orfraie et n'ont cessé de dénoncer cette proximité de fait, cette collaboration, cette bonne entente entre Caracas et Téhéran. Alors je dois également souligner que cette amitié entre le Venezuela et l'Iran n'est pas nouvelle. Déjà au milieu des années 2000, il y avait une coopération, une proximité entre la République islamique d'Iran et à l'époque Hugo Chavez. Et l'ensemble des mouvements sociaux, je vous parle de mouvements sociaux en Argentine, qui étaient des mouvements chavistes, des mouvements bolivariens, arboraient de temps à autre dans des manifestations le drapeau national iranien. Donc à l'époque, là, si vous voulez, l'opportunité pour un approfondissement de la portée stratégique des actions iraniennes était déjà là, puisqu'il y avait une sympathie, un soutien d'une part non négligeable des mouvements sociaux latino-américains envers l'Iran. Or aujourd'hui, que constate-t-on en Amérique latine? Et c'est bien pour ça que Washington est aux abois. C'est qu'un ensemble de forces de résistance sont en train de revenir vers cette voie. grand pays. Un pays qui a toujours soutenu le projet de Paris de Bolterès. Après un coup d'État, Thèse Masse, qui est le parti anti-algériste, qui est le pouvoir. Que constate-t-on depuis deux ans, depuis les événements d'octobre 2019 au Chili? Une assemblée constituante a été élue et ce sont des éléments anti-impérialistes qui dominent cette assemblée. Et pas plus tard que la semaine dernière, les électeurs péruviens portaient au pouvoir un candidat Castillo, donc le futur président Castillo. Si du moins les États-Unis ne fomentent pas un coup d'État, Castillo est clairement un élément anti-impérialiste. Donc il y a un espace assez important pour l'Iran dans toute l'Amérique latine. Il faut se rendre compte que la figure d'Hugo Chavez est pour le XXIe siècle l'équivalent de ce qu'a été la figure de Juan Domingo Perón, l'Argentin Juan Domingo Perón au XXe siècle. C'est une figure de résistance d'un État, une puissance moyenne du tiers-monde face à la grande puissance impérialiste américaine. L'impérialisme états-unien en Amérique latine étant une réalité qui remonte à la politique de Monroe en 1823. Donc cette proximité avec Hugo Chavez, avec le projet bolivarien d'Hugo Chavez, donne une assise importante pour des opportunités d'approfondissement des relations de l'Iran avec l'Amérique latine. Du moins, évidemment, les gouvernements dont le positionnement anti-impérialiste est clair. Mais ils sont de plus en plus nombreux.
Monsieur Egorov, en fait, ces derniers jours, il y a eu parmi en fait des sénateurs américains, des congressistes américains, ceux qui avaient en fait appelé ouvertement les autorités américaines à intervenir, même militairement, contre cette présence militaire navale iranienne dans l'océan Atlantique. Mais les autorités américaines savent très bien qu'une intervention contre cette présence navale iranienne dans l'océan Atlantique aura des conséquences, si vous voulez, graves pour les États-Unis. Autrement dit, les États-Unis ne peuvent rien faire contre cette présence, si vous voulez, cette puissance iranienne dans l'océan Atlantique. Monsieur Egorov, peut-on dire que les États-Unis se trouvent actuellement dans l'embarras face à cette présence navale iranienne dans l'océan Atlantique?
Tout à fait, on peut le dire, et je pense que plus généralement, l'establishment washingtonien et plus généralement atlantique occidental se trouve dans l'embarras face à la réalité, au processus qui découle du monde multipolaire. On le voit parfaitement bien. Ça concerne aussi bien les dossiers que l'on traite aujourd'hui que d'autres dossiers d'actualité. Et il est évident que si jamais ils allaient entreprendre des actes agressifs visant cette présence iranienne navale, c'est sûr qu'il y aura un impact, il y aura une riposte iranienne, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, et pas seulement dans cette région, mais également dans le Golfe Persique. La résistance en Irak, on voit parfaitement bien qu'elle ne baisse pas les bras. Enfin, il y a beaucoup de dossiers dans lesquels l'Iran pourra activer un certain nombre de choses pour justement riposter de façon ferme et très efficace. C'est tout à fait évident. D'autant plus qu'effectivement, comme cela a été dit, aujourd'hui, plus particulièrement dans le cas latino-américain, les Américains aussi sont en extrême difficulté. D'ailleurs, on le voit à travers les différents rapports qui sont en train de sortir des différents think tanks affiliés à l'establishment washingtonien, qu'ils soient d'ordre politique ou sans oublier l'establishment militaire américain qui traite aussi de cette question, qui dit qu'en Amérique latine, l'influence du triumvirat Russie-Iran-Chine est en train de monter en puissance et c'est très inquiétant pour les intérêts washingtoniens, sachant que Washington a toujours eu cette attitude néocoloniale vis-à-vis de l'Amérique latine qu'il considérait comme étant son arrière-cour et où il pouvait faire ce que bon lui semble, éliminer des leaders progressistes démocratiquement élus du moment qu'il ne convenait pas aux intérêts washingtoniens et mettre des marionnettes agressives, des extrémistes en tout genre. On connaît parfaitement ces méthodes. Mais aujourd'hui, les processus qui se déroulent justement dans le cadre du monde multipolaire, qui est devenu une réalité, y compris en Amérique latine, c'est très encourageant. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui. On a vu ce qui s'est passé en Bolivie. Ils ont réussi à inverser le président progressiste Evo Morales, qui était un grand ami et qui faisait partie de cet axe de résistance, parmi les principaux représentants de cet axe de résistance avec Hugo Chavez et d'autres leaders progressistes latino-américains. Et finalement, quelle belle revanche, la mobilisation populaire a parlé. Et finalement, même si lui n'a pas repris le pouvoir, mais c'est son camarade Luis Arce qui est aujourd'hui au pouvoir. Et Evo Morales a pu rentrer au pays. On a vu ce qui s'est passé maintenant ces derniers jours au Pérou, même si effectivement il faut rester sur ses gardes, parce qu'un coup d'État, effectivement, on ne peut jamais être à l'abri du côté washingtonien. On voit également la Colombie, qui est un régime pro-Washington, et pourtant, regardez, depuis tous ces mois, depuis combien de temps déjà, il y a des manifestations qui sont justement qui vont dans le sens de cette résistance latino-américaine. Donc je veux dire que les leviers de réponse sont très importants pour l'Iran, aussi bien dans le cadre latino-américain que dans le cadre du Moyen-Orient, la région à laquelle il appartient. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que le triumvirat Russie-Iran-Chine est en train de monter en puissance à travers l'interaction mutuelle, et ça aussi c'est un élément que les Américains ne peuvent pas ne pas prendre en considération.
Monsieur Dupré, alors la riposte de Téhéran à une éventuelle action de Washington, si j'ai bien suivi en fait Monsieur Egorov, si je vous ai bien suivi, s'étend, si vous voulez, de l'Amérique latine jusqu'à la région du Golfe Persique.
La capacité de réponse de l'Iran en Amérique latine est effectivement assez large, puisqu'il y a aujourd'hui, comme le soulignait M. Egorov, il y a une série de mouvements sociaux qui sont en train de déstabiliser la présence impériale de Washington dans la région. Mais il est surtout clair dans la conception des élites à Washington que c'est effectivement plutôt dans sa région proche que l'Iran dispose des capacités de réponse militaire les plus développées. Vous savez, les États-Unis savent bien, ils se rappellent de la présence, ils savent où en est aujourd'hui la présence militaire iranienne en Syrie. Ils voient très clairement la force de la résistance soutenue par l'Iran en Irak, et ils savent également que le Hezbollah dispose d'énormément de cartes à jouer dans les rapports de force internationaux au Liban, sans compter également la puissance aujourd'hui qui vérifie sur le terrain du Hezbollah. Donc les États-Unis se rendent compte que les cartes à jouer de l'Iran sont renforcées en Amérique latine, mais qu'elles sont surtout structurellement puissantes au prochain Moyen-Orient. Et donc globalement, je pense que pour l'instant, on est en train d'assister à un moment assez historique, puisqu'en fait, un gouvernement de résistance aux États-Unis, celui de la République islamique d'Iran, eh bien va pénétrer dans la zone des Caraïbes, une zone que les États-Unis croyaient totalement contrôlée, parce qu'en réalité, cet événement historique sera rendu possible parce que l'Iran est aujourd'hui constitue une donnée structurelle incontournable pour les pays impérialistes, pour les pays occidentaux, au prochain Moyen-Orient.
Monsieur Egorov, nous avons une minute devant nous. Le dernier mot vous appartient, s'il vous plaît.
Oui, merci. Bon, en tout cas, je pense que l'essentiel a été dit, et moi, je rejoins ce qui a été dit par Monsieur Dupré. Je suis d'avis entièrement avec ce qu'il a dit. En tout cas, une chose est certaine, c'est que le monde multipolaire aujourd'hui est bel et bien une réalité. Et aujourd'hui, le nier, c'est tout simplement faire preuve d'un négationnisme et d'un révisionnisme primaire. Et les actions que l'Iran entreprend aussi bien sur la scène régionale à laquelle il appartient que sur la scène internationale, notamment dans son interaction avec l'Amérique latine, je pense que ne font que confirmer que les principaux pays partisans du concept du bipolaire mondial aujourd'hui sont en position de force. Ces pays ne comptent pas reculer, et je pense qu'il y a beaucoup d'événements intéressants dont on assistera dans un avenir proche. je pense que tous les éléments sont là pour que cela devienne le cas.
Monsieur Mikhail Egorov, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Rabat. Mes vifs remerciements vont également à vous, monsieur Xavier Dupré, d'avoir été avec moi pour cette émission. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
L'idéologie est la pratique des courants takfiristes. Alors que les groupes armés terroristes en Syrie cherchent vainement depuis longtemps à multiplier les attaques contre les positions de l'armée syrienne à proximité des lignes de contact, ainsi qu'à surveiller les bases militaires sur divers fronts, l'armée syrienne, équipée d'armements de pointe, dont les chasseurs Sukhoi 22 ou les systèmes antimissiles, se préparent au combat et à la phase finale de la libération d'Idlib. L'armée syrienne, qui affirme être en mesure de faire face à tout scénario possible sur le front, a infligé des coups durs aux groupes terroristes au cours d'attaques visant un rassemblement de commandants militaires appartenant au groupe terroriste Al-Nusra. Parmi ces terroristes se trouvait, entre autres, Abu Khaled al-Shami, une figure proche de Abu Muhammad al-Joulani, l'un des chefs de ce groupe terroriste. Parallèlement aux attaques de l'armée syrienne contre les terroristes, l'armée de l'air conjointe russe et syrienne a éliminé 15 terroristes armés, dont un haut commandant du groupe terroriste Al-Qaïda et ses hommes à la périphérie d'Idlib, et blessé plus de 20 autres. Au cours de l'attaque, 4 quartiers généraux des groupes terroristes ont été détruits. Or, le Centre russe pour la réconciliation en Syrie, affilié au ministère russe de la Défense, a déclaré dans un communiqué que des groupes armés terroristes avaient violé le cessez-le-feu à Idlib 45 fois en 24 heures, ce qui renforce la possibilité d'une bataille majeure à Idlib dans un proche avenir. Il est certain que tant que cet accord de cessez-le-feu sera respecté, l'opération de nettoyage contre les terroristes à Idlib se poursuivra. L'armée syrienne surveille donc de près les mouvements des groupes terroristes et la poursuite des violations du cessez-le-feu. Les forces armées sont en état d'alerte élevé sur les axes de conflit à la périphérie d'Idlib avec des groupes armés terroristes soutenus par l'armée turque. Et ce, alors que dans le cadre de la coopération militaire et technique entre la Russie et la Syrie, la Russie a fourni à la Syrie 12 moteurs de la nouvelle génération de AL-21 qui seront utilisés pour réparer les bombardiers supersoniques Sukhoi 22 au service de l'armée de l'air syrienne, ce qui augmentera considérablement la capacité défensive de la Syrie. Les avions Sukhoi 22 ont pourtant fait leurs preuves en Syrie et en Libye. Toujours largement fonctionnels, ces avions de chasse sont actuellement utilisés pour mener des frappes opérationnelles. La panne du moteur a été annoncée comme cause de la non-utilisation par l'armée de l'air syrienne de ses avions d'attaque. En Syrie, les terroristes transfèrent blindés et hommes dans le gouvernorat d'Idlib. La défense russe tire de nouveau la sonnette d'alarme au sujet de la situation dans le gouvernorat syrien d'Idlib. Les radicaux y déplaçant hommes et matériel militaire, alors que l'armée syrienne constate une augmentation du nombre de tirs vers ses positions dans le secteur. Un transfert de véhicules blindés et d'hommes a été observé dans le gouvernorat syrien d'Idlib, a annoncé ce 11 juin le chef adjoint du centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, le contre-amiral Vadim Kulit. Des groupes armés illégaux procèdent dans la partie méridionale de la zone de désescalade d'Idlib au transfert d'hommes et de véhicules blindés vers les localités de San et de Majdalia dans le gouvernorat d'Idlib, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse en vidéo. Le commandement des forces gouvernementales syriennes constate de son côté un fort accroissement du nombre de tirs des groupes terroristes depuis cette zone en direction des positions des forces armées syriennes sur les axes de Ouaïha, Djoubas et Saraheb, a-t-il encore ajouté. Selon les informations du centre russe, la zone de désescalade d'Idlib a été le théâtre de 38 tirs depuis les positions du groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham, dont 17 dans le gouvernorat d'Idlib, 9 dans celui de Hama, 8 dans le gouvernorat de Latakié et 4 dans celui d'Alep. Entre-temps, des Syriens qui ont fui leur maison dans les territoires occupés par des groupes armés et qui sont contraints de séjourner dans des camps de réfugiés, ont déclaré aux correspondants de Spoutnik que les radicaux continuaient d'empêcher les civils de retourner à une vie normale. Ainsi, ils entravent le déplacement dans les secteurs d'Idlib libérés par l'armée syrienne. Je fais partie de ceux nombreux qui ont perdu leurs proches. Ma femme et ma fille ont trouvé la mort dans l'explosion d'un car lorsqu'elles voulaient quitter le territoire occupé. Mon fils, qui avait alors 3 ans, a survécu, mais a été emmené par les radicaux. Je l'ai cherché pendant très longtemps et j'ai dû payer une rançon aux terroristes. Nombreux sont ceux qui sont toujours retenus en otage, a indiqué un résident d'un camp de réfugiés. Un terroriste algérien qui avait rejoint des groupes terroristes au Sahel s'est rendu aux autorités militaires algériennes à Borj Badji Mouhtar, ville frontalière du Mali, a annoncé lundi 14 juin le ministère algérien de la Défense. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, le terroriste dénommé Hanouni Ahmad, dit Ibrahim, s'est rendu dimanche 13 juin aux autorités militaires à Borj Badji Mouhtar, a indiqué le ministère dans un communiqué précisant qu'il avait rallié en 2008 des groupes terroristes actifs dans la région du Sahel. Il avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et des munitions. Il s'agit du 6e Algérien appartenant à la mouvance takfiriste au Sahel à se livrer aux autorités de cette ville depuis le début de l'année. Il y a un an, le chef de l'organisation terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, l'Algérien Abdelmalek Drugdal, avait été tué par les forces armées françaises dans le nord du Mali. Il a été remplacé par un autre Algérien, Abu Ubaïda Youssef, selon ACMI. Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi une réduction de la présence militaire française au Sahel qui se traduira par la fermeture de bases et une réarticulation de la lutte antiterroriste autour d'une alliance internationale. Le président algérien a récemment évoqué à propos du Mali et de Libye la possibilité d'un engagement militaire de l'Algérie à l'extérieur, car la constitution algérienne autorise désormais ce type d'intervention sous l'égide des Nations Unies, de l'Union africaine et de la Ligue arabe. Selon des analystes, Alger, soucieux des risques d'instabilité à ses frontières, entend ainsi peser davantage sur la scène régionale, notamment en Libye et au Sahel.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.